Maintenant, je vais vous présenter notre conférencier de ce soir, André Mariotti, né le 6 août 1946. Il est biogéochimiste. Il est directeur adjoint de l'Institut national des sciences de l'univers en charge de la division surface continentale et interface continentale. Pour son parcours, 1985 à nos jours, professeur à l'université Pierre et Marie Curie Paris 6 et directeur du laboratoire biogéochimie isotopique des milieux continentaux, laboratoire associé CNRS-INRA. Professeur à l'Institut universitaire de France, il est directeur de l'Institut fédératif de recherche, environnement et gestion de l'espace régional. Ses spécialités, André Mariotti est spécialiste de biogéochimie, il s'intéresse aux questions d'environnement et à l'étude de la pollution. Pour sa bibliographie, André Mariotti a écrit plus de 170 articles dans des revues spécialisées, dont 130 dans des revues internationales. Et ses distinctions, 1982, il a reçu la médaille d'or de l'Académie d'agriculture de France. En 1994, lauréat du prix scientifique Philippe Maurice au titre de la biochimie. Maintenant, je vais lui laisser la parole pour une cinquantaine de minutes, après quoi il y aura un débat avec le public de 20 minutes. Merci.
Bonsoir. Ça va ? Voilà. Lorsqu'on m'a demandé de participer à cette série de conférences sur les interfaces, j'ai proposé une conférence sur un problème d'environnement. Et lorsqu'on parle d'environnement, on a un peu trop souvent des réponses qui concernent le problème de l'augmentation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, du CO2 ou du trou dans la couche d'ozone. Et j'ai choisi délibérément aujourd'hui de vous parler de quelque chose qui est connu du grand public, qui intéresse beaucoup plus évidemment les gens au niveau terre-à-terre, c'est-à-dire la qualité des eaux, la qualité des sols, et j'ai choisi de vous traiter du problème de la pollution par les nitrates. Les journaux s'en font les échos très fréquemment, et je pense qu'il y a un certain nombre de choses qu'il faut essayer de bien fixer, et je vais essayer de vous montrer en même temps que ces recherches dans l'environnement sont typiquement des recherches d'interface. Elles font intervenir beaucoup de disciplines. On va les voir les unes après les autres. Et je vais vous montrer également que ces recherches sur l'environnement, eh bien, on a beaucoup, beaucoup d'idées qui sont des idées acquises sur lesquelles je pense qu'il nous faut essayer de revenir. Les nitrates, c'est un composé de l'azote. Un oxyde d'azote, c'est donc une molécule qui contient de l'azote et de l'oxygène, et c'est un compartiment essentiel d'un cycle important de la surface continentale qui est le cycle de l'azote, comme vous connaissez le cycle de l'eau ou le cycle du carbone. L'azote, c'est un élément clé, indispensable à tous les êtres vivants. On le trouve dans toutes les protéines, on le trouve dans l'ADN. C'est d'ailleurs, il porte un nom très paradoxal que lui a donné Lavoisier, il l'appelait azote, A privatif, zo, la vie, sans vie. Et c'est tout à fait surprenant qu'il ait choisi ce nom. Il a choisi ce nom parce que de l'azote, il l'a découvert dans l'atmosphère, qui 80% de notre atmosphère est composée d'un gaz qui est le dit azote. Et ce gaz, il a trouvé qu'il était très très peu réactif. Mais il y a un paradoxe dans ce nom, puisque vous voyez que c'est un élément constituant des protéines, de l'ADN. C'est un élément donc essentiel à la vie. On va essayer de voir au passage comment on peut lever ce paradoxe. Le cycle de l'azote dont je vous ai parlé, c'est un cycle extrêmement complexe. Alors, je vais vous en montrer quelques-uns des processus identifiés, c'est simple. Alors, mais ça, je ne vais pas vous en traiter, c'est juste pour vous montrer un peu la complexité. C'est quelque chose que je projette à mes étudiants de maîtrise, donc il est volontairement simplifié. Alors, on va rentrer quand même un petit peu plus dans le détail. Il y a de l'azote dans l'atmosphère, et cet azote dans l'atmosphère, c'est une variété particulière d'azote, c'est ce qu'on appelle le diazote, deux atomes d'azote liés par une triple liaison. Vous voyez, entre les deux N, il y a une triple liaison, et cette triple liaison, c'est quelque chose qui est chimiquement extrêmement réactif. C'est pour ça que Lavoisier, quand il a vu qu'il ne pouvait rien en faire de ce diazote, il a appelé azote. Ça n'a aucun rapport avec la vie. Or, c'est complètement faux, puisque je vous ai dit, on le trouve dans les protéines, on le trouve dans l'ADN, on le trouve dans toutes les molécules importantes de la vie. Et il faut essayer de comprendre comment ces molécules-là ont pu trouver une source d'azote, comment ces molécules importantes pour la vie ont trouvé leur source d'azote, et comment les êtres vivants, dès le début de l'apparition des tout premiers êtres vivants sur la Terre, ont su trouver cet azote. Eh bien, ils sont allés le chercher dans ce fameux diazote, soit des bactéries ou des êtres primitifs, encore plus primitifs que les bactéries, soit plus récemment des bactéries qui sont liées à des plantes, qui vont se mettre à l'intérieur de racines de plantes pour faire des espèces de petites boules là-dedans. Ces bactéries qui sont libres ou liées à ces plantes, elles sont capables de prendre la diazote de l'air et de le fixer. Alors la fixation, c'est tout simplement, on va appeler ce terme fixation, le passage de ce diazote à une molécule où de l'azote est combiné, un composé de l'azote, celui dont vous voyez la formule ici, ça s'appelle de l'ammonium. Cet ammonium est immédiatement utilisé par les êtres vivants pour faire leur synthèse d'acides aminés, de protéines et puis des molécules plus complexes. Et on aboutit ainsi, par ce processus, à partir de diazote de l'atmosphère, à fabriquer de l'azote organique dont nous sommes tous constitués. Enfin, nous contenons tous à peu près 6 à 7% d'azote organique. Et à la mort de ces bactéries ou à la mort de ces végétaux qui ont été capables d'assimiler cet azote, eh bien, on fabrique avec cette matière organique quelque chose qui est tout à fait essentiel et qu'on retrouve dans tous les sols, ce qu'on appelle l'humus, la matière organique des sols, dont un sous-compartiment, j'ai appelé ici azote de la biomasse, est composé des bactéries qui sont dans le sol. Et il y en a une quantité importante, où on estime qu'il y en a à peu près 1 milliard dans une cuillère à soupe de sol. Donc c'est quelque chose de tout à fait important et on va les retrouver, ces bactéries, tout au long de ce cycle. L'azote organique, c'est de l'azote qui est vivant dans les êtres vivants, c'est de l'azote qui est pour l'essentiel mort dans la matière organique du sol, et elle n'est pas stable, et elle a tendance spontanément à se dégrader pour redonner de l'ammonium, ce composé NH4+, qui est là. Ce composé, dans le milieu de la surface continentale, en présence de beaucoup d'oxygène, va avoir une tendance spontanée à s'oxyder pour donner notre fameux composé d'azote et d'oxygène, qui est ce fameux nitrate. Alors ça, c'est une réaction, c'est un ensemble de réactions, c'est le début de ce cycle de l'azote. Vous voyez qu'on est déjà parti de quelque chose qui est très très peu réactif. Par la médiation de bactéries, on a transformé ça en un composé de l'azote, qui est l'ammonium ou le nitrate. Ce qu'on a fait ici, en particulier sur la fixation biologique, c'est quelque chose d'assez fabuleux, parce que pour casser cette fameuse triple liaison du diazote qui est ici, il faut développer une énergie considérable. Les bactéries le font depuis, les bactéries ou les êtres primitifs, il y a 3,8 milliards d'années, savaient déjà le faire. L'homme a su le faire à partir de 1909, on y reviendra. On est donc arrivé à notre nitrate, et ce nitrate, eh bien, l'homme a appris très récemment à le fabriquer. C'est très récent, ça date des années 1910 à peu près, par des processus qui sont liés à la fixation industrielle pour fabriquer des engrais, ces engrais qui vont être utilisés pour stimuler la production végétale. Et finalement, ça n'est que très récemment, ça n'est que depuis, disons, une 50 à 60 ans, qu'on utilise en grande quantité ces engrais pour stimuler la production végétale avec un succès considérable qui fait que, eh bien, on est arrivé à obtenir l'autosuffisance alimentaire, du moins dans les pays développés, sans aucun problème. C'est grâce à ces engrais, à la fabrication de ces engrais. On y reviendra sur ces processus. Ces engrais, ça peut être indifféremment des nitrates ou de l'ammonium. Vous voyez que ces deux composés sont très proches l'un de l'autre et on passe très facilement de l'un à l'autre. Le devenir de ces nitrates, eh bien, ces nitrates, ils ne sont pas retenus dans le sol pour des raisons chimiques dont je ne vous parlerai pas. Ils ne sont pas retenus, c'est-à-dire qu'ils peuvent être entraînés par l'eau, être lessivés, rejoindre malheureusement les eaux souterraines, les rivières, les lacs et arriver in fine à l'océan. Mais ce nitrate ou cet ammonium contiennent de l'azote, et les bactéries du sol, ces fameuses bactéries-là, ce milliard dans une cuillère à soupe, ils ont eux aussi, comme tous les êtres vivants, besoin d'azote. Et ils vont être capables de réutiliser ces composés, qui sont des composés minéraux, pour refabriquer des composés organiques. Et vous voyez qu'on vient de dessiner là un premier cycle dont j'ai représenté schématiquement le fonctionnement ici, entre de l'azote minéral, de l'azote organique, et ce cycle-là, eh bien, c'est ce qu'on appelle le cycle interne de l'azote, on y reviendra très souvent, et il va nous expliquer beaucoup de choses sur les problèmes de pollution par les nitrates. Sinon, les nitrates, eh bien, les nitrates, ça vous le savez, c'est ce qu'on va mettre sur la végétation pour obtenir les rendements nécessaires, mais c'est aussi ce qui permet à la végétation naturelle de trouver une source d'azote dans le sol. Et enfin, une dernière étape dont on reparlera, qui boucle complètement, là, non plus un cycle interne, mais un grand cycle de l'azote, c'est une étape qu'on appelle la dénitrification. Ce nitrate, dans certaines conditions, peut se détruire et redonner du diazote. Donc on va essayer de faire le petit voyage, et je vais vous inviter d'abord à dire, je vais vous donner deux mots sur ces processus industriels de fixation de l'azote atmosphérique, inventés par M. Fritz Haber, qui a inventé ce processus assez compliqué. Il faut faire brûler du gaz naturel en présence d'eau, on obtient de l'hydrogène. On combine cet hydrogène ensuite avec de l'azote de l'air, et on arrive à fabriquer un composé qu'on appelle l'ammoniac, vous savez, ce gaz piquant. Et ceci, eh bien, on sait le faire à 300 atmosphères. Il faut être à 300 atmosphères, hein, à très haute pression, dans des réacteurs, à très haute température, à 500 degrés, et en présence de catalyseurs. Dès lors qu'on a fait cet ammoniac, on sait faire de l'ammonium et du nitrate par des réactions chimiques extrêmement simples, et on fabrique des engrais. On fabrique des engrais, mais quand on a fabriqué des nitrates, on a fabriqué aussi des explosifs. C'est un élément constitutif de la poudre, poudre à canon, poudre à poulet fusil. Le caractère explosif, vous vous rappelez Toulouse, vous vous rappelez la destruction du port de Brest en 1947 également. Et on peut faire une toute petite incidence, la première production industrielle de nitrate, c'est 1913, et vous remarquerez quand même la coïncidence avec l'apparition de la guerre de 14-18. S'il n'y avait pas eu cette invention-là, il n'y aurait jamais eu de guerre de 14-18, puisque les réserves de nitrate, avant qu'on sache faire des engrais, venaient du Chili, et qu'avec le blocus continental, le blocus fait par la marine britannique, eh bien, l'alimentation en nitrate de l'Allemagne eût été stoppée au bout de quelques mois. Donc vous voyez comme parfois on invente des engrais et puis on a des conséquences imprévisibles. Je rappelle une chose pour montrer quand même qu'une bactérie, c'est quand même quelque chose qui est assez formidable, c'est que l'homme sait faire ça à 300 degrés et à 500 à 300 atmosphères et 500 degrés, une bactérie, ça sait le faire à 0,8 atmosphères, c'est-à-dire la pression partielle d'azote qu'il y a dans l'atmosphère, et à 15 degrés en moyenne, cette fixation. C'est quelque chose d'important si on essaie de comparer la fixation naturelle, qui est de l'ordre de 120 millions de tonnes d'azote fixées par an, eh bien on constate que la fixation de l'homme est au jour d'aujourd'hui est aujourd'hui de l'ordre de 150 millions de tonnes par an. Et ça, c'est quelque chose de très symptomatique, de très particulier au cycle de l'azote. C'est un des rares cycles où l'homme a été capable de plus que doubler un des flux importants du cycle. Et cet événement, c'est un événement qui est relativement récent. Si on compare la fixation naturelle qui est ici, et voilà l'évolution de la fixation par les activités humaines, eh bien, on constate que c'est quelque chose de très récent. Ça a démarré, je veux dire, le décollage de la fixation importante a commencé à partir de 1945, et c'est un peu avant les années 80 que la fixation par l'homme a dépassé la fixation naturelle. Alors ça a des conséquences, que l'homme soit capable de plus que doubler un flux, et dans ce cas-là, le flux de fixation, c'est-à-dire faire rentrer dans les écosystèmes terrestres ou marins de l'azote qui était avant dans l'atmosphère, totalement inerte et où il n'avait aucune conséquence, ça a une conséquence importante qui fait que tous les flux de ce fameux cycle que vous avez vu compliqué sont tous accrus de façon très significative, et on va retrouver de l'azote sous des formes différentes. Alors prenons l'exemple du nitrate, on va aller chercher dans les glaces du Groenland, et vous savez que dans les glaces, si on va examiner des couches de plus en plus profondes, on tombe sur des âges de plus en plus profonds, eh bien qu'est-ce qu'on observe ? On observe que à partir de 1750, on peut aller remonter plus loin dans le temps, on a un taux de nitrate constant, et à partir des années 50 ou 60, une augmentation tout à fait exponentielle. Alors, je vous rassure, les nitrates du Groenland ne sont pas pollués par les nitrates, parce que les concentrations qui sont là, elles sont exprimées en parties par milliard, c'est-à-dire en microgrammes par kilo de glace. Donc, c'est des toutes petites quantités, mais ces toutes petites quantités qui s'élèvent brutalement à partir des années 60 montrent bien l'influence de l'homme à l'échelle globale sur ce fameux cycle de l'azote. Tous les milieux sont affectés par cette augmentation des flux naturels. Mais bien évidemment, et on vient au cœur de ce qui nous intéresse, eh bien c'est dans les eaux de surface et les eaux souterraines que se produisent les choses les plus graves. En effet, eh bien on va, si on suit des chroniques d'élévation des teneurs en nitrate dans les eaux, j'ai pris un exemple ici en Brie, mais j'aurais pu trouver des exemples à peu près partout sur le territoire français ou dans les pays développés, eh bien on constate quelque chose qui est rigoureusement identique à ce que vous avez vu tout à l'heure dans les glaces du Groenland, qu'à partir des années 60, on a une augmentation importante de ces teneurs en nitrate, et que l'on peut arriver à dépasser une concentration de 50 mg par litre, qui est la norme de potabilité en nitrate. Au-dessus, eh bien, les eaux sont réputées non potables. Pourquoi sont-elles réputées non potables? Eh bien, parce qu'on prête aux nitrates un certain nombre d'actions toxiques. Je vais les résumer rapidement. La première, c'est un danger de fabrication à partir de nitrates qui seraient consommés dans le tractus digestif, notamment des jeunes enfants, des mammifères, des bébés ou bien des petits veaux, etc. La transformation d'un nitrate, de ce nitrate en un autre composé chimique qui est le nitrite, et qui réagit, ce nitrite, avec l'hémoglobine. Et cette hémoglobine, dès lors, devient incapable de fixer l'oxygène de l'air, incapable de transporter l'oxygène, et on arrive à une cyanose. Elle a à cet égard exactement le même comportement que la carboxyhémoglobine avec le CO. C'est un danger extrêmement théorique. Je pense qu'il n'y a pas un cas de méthémoglobinémie identifié en France depuis au moins un siècle. Mais c'est ça qui nous conduit à quand même essayer de maintenir ce taux de normalité inférieur à 50 mg par litre. Un deuxième danger, c'est le danger d'eutrophisation. Qu'est-ce que c'est que l'eutrophisation? C'est le fait que la présence de nitrates dans les eaux de surface ou bien dans les eaux marines, peut provoquer, puisque c'est un nutriment important, l'efflorescence d'algues vertes, par exemple, et vous connaissez tous les problèmes qu'on peut avoir sur certaines côtes bretonnes où certains étés, on voit des développements de ces algues vertes qui sont très très peu agréables et assez peu propices au développement d'un tourisme satisfaisant. Et puis enfin, on soupçonne ces nitrates en grande quantité de pouvoir donner naissance à des nitrosamines, mais là j'ai mis un point d'interrogation, c'est pas confirmé, mais si ça l'était, ça serait important, parce que ces nitrosamines sont réputées cancérigènes. Tout ceci conduit à émettre des normes de potabilité dans les eaux qui sont de 50 mg par litre, ce qui fait 11 mg d'azote du nitrate par litre. Et ce qui a permis d'édicter par le comité de prévention et de la précaution du ministère de l'Environnement, il ne s'appelle plus comme ça maintenant, la recommandation sur les nitrates dans les eaux destinées à la consommation humaine, et dans laquelle toutes les eaux dites potables ou distribuées au robinet doivent se soumettre à cette norme de 50 mg par litre. Alors la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi y a-t-il pollution? Et comment y a-t-il pollution par ces nitrates? Alors, je ramène cette figure. Hein. On constate qu'à partir des années 60, eh bien, on augmente considérablement les teneurs et inexorablement, on arrive à dépasser les normes de potabilité. Alors, si je reprends la courbe d'évolution de la fabrication des engrais dans le monde, eh bien, on peut arriver à avoir une conclusion qui est assez simple. On voit que dans le fond, ces courbes sont strictement identiques. C'est à partir de 1960 qu'on a fabriqué beaucoup d'engrais, et vous voyez que c'est à partir de 1960 que l'on a une pollution par les nitrates qui augmente. Alors, d'où la conclusion, eh bien, les agriculteurs mettent trop de nitrates, on en perd, et puis voilà, et on a l'explication. Les deux courbes sont parallèles. Je pense que, et je vais essayer de vous montrer que les choses sont effectivement pas loin d'être aussi simples. Alors, dans un sol, un agriculteur veut faire de l'agriculture pour faire une production, et cette production, il en tire un bénéfice économique qui lui permet de vivre. S'il a un objectif économiquement nécessaire de rendement, qui est de 85 quintaux de blé à l'hectare, par exemple, c'est-à-dire ce qui lui permettra, lorsqu'il aura vendu son blé, de payer ses frais et d'avoir son salaire dessus. S'il a cet objectif de rendement, il sait qu'il faut 3 kilos d'azote pour faire un quintal de blé, et donc il doit arriver à trouver dans le système, dans son système, c'est-à-dire un système sol, 255 kg d'azote par hectare. Les sources d'azote, c'est les engrais, parce que les matières organiques du sol ne sont pas suffisantes. On a vu qu'elles pouvaient fabriquer tout à l'heure ces matières organiques en donnant de l'ammonium puis des nitrates, elles pouvaient donner des nitrates. Et on était dans cet état jusqu'aux années 1920-1930. Hein, on avait comme source l'humus et cette nitrification de l'humus. Ça ne suffit pas. Maintenant, donc, pour atteindre de tels rendements, on est obligé d'utiliser des engrais, mais en se rappelant qu'on a quand même des matières organiques du sol qui en fournissent. Donc un agriculteur qui travaillent bien, et la plupart des agriculteurs sont dans cette situation-là, ils connaissent leur sol, ils connaissent les quantités de nitrates que les matières organiques du sol peuvent donner à la culture, ils ajustent la quantité d'engrais aux besoins nécessaires pour la plante. Il y a des logiciels pour ça, ils sont maintenant pour la plupart tous informatisés, donc quelque chose qui est assez, assez complexe, et on constate que dans un système de cette nature, ils perdent effectivement des nitrates qui vont alimenter les nappes et que ce qu'ils perdent, c'est de l'ordre de 30 kg d'azote par hectare et par an. Je vous rappelle que ce qu'ils mettent en jeu pour faire une culture, c'est 255 kg d'azote. Ces 30 kg d'azote par hectare et par an qui s'infiltrent vers les nappes souterraines dans la lame d'eau qui est, on l'a dit, efficace, c'est-à-dire la lame d'eau qui va s'infiltrer. Ce n'est pas toute l'eau de pluie, puisqu'une bonne partie est reprise par la végétation et évaporée. Dans les 250 mm d'eau de pluie qui s'infiltrent et qui vont alimenter la nappe, vous dissolvez ces 30 kg d'azote par hectare et par an, et vous avez une concentration de 53 mg par litre. C'est-à-dire que l'agriculteur a déjà perdu son pari, il est déjà au-dessus de la norme de potabilité. Et pourtant, il dépasse la norme de potabilité alors qu'il a perdu moins de 12%, c'est 30 kg comparé à 255, de la quantité nécessaire, d'azote nécessaire à la culture. Et vous voyez que c'est un système qui est remarquablement efficace. Il y a peu de systèmes aussi complexes. Vous vous rappelez le cycle, hein, flèche partout. Au système aussi complexe, il en perd finalement très très peu et ça suffit à l'amener au-dessus des normes de potabilité. Et malheureusement, vous allez voir que les choses sont encore plus compliquées. Pour ça, on va étudier, par exemple, des choses qui se font dans des sols expérimentaux, c'est-à-dire, grosso modo, ce sont des sols que l'on a isolés, on a construit des murs autour de ces sols, on a coupé la partie inférieure de façon à pouvoir récolter les solutions qui s'écoulent de ces sols, on va étudier les drainages et on va amener ces échantillons d'eau au laboratoire pour l'analyse. Alors, si on fait une étude un petit peu détaillée. On va sur un système qu'on appelle, ce que j'ai décrit tout à l'heure, un quasi-symétrique. On a, chaque année, on fait une culture, on amène de l'azote, on cultive des plantes comme dans les sols cultivés à côté. Et on a amené, une année donnée, un nitrate qu'on a repéré, qu'on avait peint en rouge. En fait, on ne l'avait pas peint en rouge, on l'avait marqué avec un isotope. Alors, je vous rassure tout de suite, c'est un isotope stable, non radioactif, l'azote 15. Et on a suivi, au cours du temps, les années suivantes, ce que devenait cet apport de 1982, sachant que les années suivantes, on continuait à apporter des apports d'engrais, mais cela tout à fait naturel, non marqué isotopiquement. Et la grande surprise qu'on a eue, c'est de découvrir, voilà les sorties, la quantité d'azote 15 qui sort, les années qui suivent 1982. La courbe, je ne l'ai pas actualisée, mais la grande surprise qu'on a eue, c'est de constater que jusqu'en 1999, et je peux vous dire que ça sort encore cette année en 2002, on a encore des pertes de la fertilisation apportée en 1982. Alors ces pertes, elles sont, autre surprise, ces pertes annuelles, chaque année, extrêmement faible, c'est moins de 1% en général de l'apport de 1982. Perte très faible, mais pendant très longtemps, pour une application. Et ce très longtemps, c'est 20 ans cette année, et on n'a aucune raison de penser que ça va s'arrêter l'année prochaine, même si ça, vous l'avez vu, ça a diminué. Donc on a une fonction de production des nitrates qui est telle qu'elle a une très très grande inertie, et c'est une inertie qui est tout à fait propre aux nitrates. Si on étudie le devenir de d'autres composés chimiques qu'on va mettre sur ces cases isométriques et dont on va étudier le devenir à la sortie, eh bien on va trouver des choses, des comportements tout à fait différents. Par exemple, on va prendre un anion comme le chlorure. Le chlorure, c'est un anion constituant du sel de cuisine. C'est aussi un anion comme le nitrate. Vous avez remarqué que le nitrate, c'était aussi un anion. Il avait un petit moins ici. Si j'injecte une certaine quantité de chlorure sur une case isométrique, voilà ce qui est la quantité que j'ai injectée, on constate au cours du temps que ce qui va sortir ici, eh bien, c'est éliminé extrêmement rapidement au cours du temps. Très rapidement, tout ce qu'on a mis en, disons, deux ans et demi, tout le chlorure apporté est éliminé. Cet élément, il est dit conservatif, c'est-à-dire qu'il ne réagit pas avec les plantes, il ne réagit pas avec les bactéries. Et vous avez vu que ce n'était pas le cas des nitrates, puisque les nitrates sont prélevés par les plantes, sont aussi utilisés par les bactéries. Alors, ces sorties très rapides s'opposent tout à fait à ce qu'on peut avoir avec un anion non conservatif comme le nitrate. Je rajoute une certaine quantité de nitrate, et là, j'ai des sorties qui sont, elles, extrêmement faibles, mais qui durent pendant très longtemps. Donc, cette notion de grande inertie. Je crois qu'il faut qu'on sache, lorsque on essaie de comparer les deux, on voit très très bien que le comportement est complètement différent, et il faut essayer de trouver la clé du mécanisme qui est à l'origine de cette inertie, parce que c'est quand même un très grand problème. Si chaque fertilisation a des conséquences pendant plus de 20 ans, on engage très très sérieusement l'avenir par un tel système. Alors, on va répéter. Lorsqu'on veut faire lorsqu'on apporte des engrais sur un sol, une partie est utilisée par la plante. Ça, c'est le but, le rechercher. On fait de la production et c'est très bien. Mais une partie va rentrer dans la biomasse microbienne. Ces microbes qui sont avides d'azote, eux aussi, et vont constituer, puisque cette biomasse microbienne, c'est de la matière organique, elle va participer de la matière organique des sols. Les microbes, là, ça vit un mois ou moins d'un mois, et quand ça va mourir, eh bien, ça va se nitrifier, ça va donner des nitrates. On ne fait que répéter ce qu'on a déjà vu tout à l'heure. Ces nitrates qui peuvent être récupérés par la génération d'après des bactéries. C'est-à-dire revient de la matière organique. Et ce qu'on a dessiné là, on le retrouve, c'est ce fameux cycle interne de l'azote qui fonctionne dans le sol. Et l'inertie que l'on décrit sur la sortie des nitrates, elle est liée tout simplement à ce phénomène de recyclage. En fait, le nitrate qu'on met dans le sol, une partie va dans la plante et l'autre partie va dans la matière organique du sol, redonne du nitrate qui revient dans la matière organique du sol, et ce système-là fonctionne. Et la démonstration, l'expérience que nous avons faite tout à l'heure, est la démonstration du fait que ce sont en fait des fuites de ce cycle interne qui expliquent les pertes en nitrates. Et donc, ça veut dire que les nitrates qui vont quitter le sol pour rejoindre la nappe ne viennent pas, pour l'essentiel, des engrais, mais viennent bien de la minéralisation, de la nitrification de ces systèmes de matière organique. Pas directement des engrais, alors il ne faut pas exagérer, il y a des toutes petites pertes, on peut avoir effectivement de toutes petites pertes, mais on sait maintenant qu'elles sont en fait tout à fait minimes. Alors, si on reprend le résultat, le bilan de l'expérience dont je vous ai parlé tout à l'heure, sur 10 ans après l'apport de 1982, on a, sur ces 10 ans-là, perdu 10 kg d'azote de 1982. On sait le reconnaître puisqu'il est marqué par un isotope. On a perdu 10 kg pendant ces 10 ans. Vous voyez que c'est relativement peu, on en a apporté 150 kg, on en a perdu 10 kg sur 10 ans, mais pendant la même période de 10 ans, lorsqu'on analyse la quantité totale d'azote qui est exportée, c'est plus de 300 kg. Qu'est-ce que ça veut dire? Essayons de réfléchir à ce bilan. Si pendant ces 10 ans qui suivent l'apport marqué de 1982, on a perdu 10 kg d'azote de 1982, et au total, sur la même période, 300 kg d'azote par hectare, ça signifie que les pertes à un moment donné, c'est quoi? C'est l'addition des pertes individuelles de fertilisation de chacune des années qui précèdent, et ce, pendant très longtemps. À la limite, on peut faire un calcul qui est très outrancier, qui est de dire 300 kg sur 10 ans, dont 10 kg d'il y a 10 ans perdus, eh bien c'est la l'incrémentation de 30 années de fertilisation successive qui expliquerait les pertes à un moment donné. On a donc obtenu deux résultats essentiels. Le premier, sur l'origine des nitrates. Les nitrates, ils ne viennent pas des engrais. Alors, ils viennent de la minéralisation des matières organiques. Ça, c'est un peu artificiel, ce que je dis, parce que ces matières organiques, elles sont, vous l'avez bien vu, très fortement alimentées par les engrais. Mais le nitrate des engrais, il passe dans les matières organiques. Et la deuxième notion, c'est la notion de l'âge moyen du nitrate. Quand un nitrate quitte le sol pour aller, par exemple, rejoindre les nappes souterraines, eh bien, il a un âge moyen qu'on ne sait pas encore très bien fixé, mais qui est de l'ordre de entre 20 et 30 ans. Il y a une partie de l'année dernière, une partie jeune, mais il y a très probablement une partie très vieille, peut-être pas très grande, mais qui a peut-être plus de 40 ans. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait important. Ça signifie que... on va y revenir. On va faire un modèle très simple du système. Voilà, on apporte un engrais, une année donnée, une perte très faible pendant très longtemps. L'année d'après, on rajoute une deuxième fertilisation. Perte très faible pendant très longtemps. Mais ces pertes s'additionnent à la précédente. L'année qui suit, l'année qui suit encore une année. Et puis au total, eh bien, on va arriver à sommer un système et on voit la courbe que l'on va avoir, c'est-à-dire l'addition de toutes ces pertes successives. Et on arrivera à un moment donné à un plateau. Bien, on arrivera à un plateau le jour où les pertes de la première année seront arrivées à zéro. Alors ça, c'est un résultat qui est important parce que au jour d'aujourd'hui, personne ne sait où on en est de cette courbe. On a vu les courbes qui augmentent, c'est sûr, mais personne ne sait si on est là. Si on est ici, ce qui serait assez satisfaisant parce que ça plafonnerait bientôt, mais personne ne peut dire si par hasard on ne serait pas ici, c'est-à-dire si le pire n'était pas à venir. Si on reprend cette courbe, eh bien, on va dire, imaginons que sur une zone donnée, on arrête demain, on décide drastiquement d'arrêter l'apport d'engrais. Vous voyez une chose qui est claire, c'est que les premiers effets, ce qu'on risque d'avoir, c'est quelque chose qui va continuer à augmenter pendant un certain nombre d'années avant de rediminuer. Si le jour on était à l'équilibre en haut, on décidait d'arrêter tout, on retournerait peut-être à un état normal, mais il nous faudrait une très très longue période de temps. Et ces très longues périodes de temps, vous voyez qu'on les situe en plusieurs dizaines d'années. C'est tout à fait équivalent à ce qu'on a eu dans les problèmes d'atmosphère. Lorsqu'on a interdit les CFC, les chlorofluorocarbones, parce qu'elles détruisaient la couche d'ozone, on savait que les premiers effets... Eh bien, on ne les verrait que 20 ou 30 ans après, et ce n'est que cette année qu'on commence à avoir effectivement les tout premiers effets de ces systèmes-là. Mais vous voyez que dans un système pareil, d'abord interdire l'application d'engrais, je veux dire, ça aurait des conséquences économiques et sociologiques pour les agriculteurs qu'il faudrait quand même essayer d'évaluer. Et puis, je veux dire, les effets n'étant observés qu'à très long terme, je veux dire, ce terme-là, il n'a rien à voir avec les préoccupations des hommes politiques qui ont des visions qui sont quand même à des espaces de temps beaucoup plus courtes. Et là, il y a quand même un gros problème. Je dis souvent à mes étudiants, je dis que lorsqu'on on demande aux agriculteurs de gérer ce problème, on leur demande de gérer, de conduire une voiture qui aurait la propriété d'avoir les roues qui tourneraient 20 minutes après qu'on ait actionné le volant. C'est un petit peu ça. Et en général, je crois qu'au premier virage, on risque fort d'aller dans le décor, et c'est probablement ce qu'on a fait à cause des nitrates. Inertie, il y en a une autre d'inertie, c'est l'inertie avec laquelle les nitrates vont descendre jusqu'aux nappes souterraines. Voilà par exemple un milieu, c'est dans la craie de Champagne. Voilà les teneurs en nitrates que l'on peut mesurer depuis le sol en surface jusqu'à la nappe qui est ici. Alors là, vous voyez une chose, c'est que la nappe est ici, les concentrations sont relativement faibles, mais si ce qui est au-dessus descend jusqu'à la nappe, et c'est ce qui va arriver, je veux dire, il y a des choses assez graves qui nous attendent. Ça a été fait en juin 1979. Lorsqu'on fait la même expérience en mars 1982, eh bien, on constate que la distance parcourue par ce pic de nitrate qui est ici, elle est de 1,50 m en 2 ans et 9 mois, et vous voyez que ces choses-là sont très très lentes, et que probablement des pollutions peut-être encore pires sont à craindre dans les temps à venir. Alors ça, c'est un peu désespérant. Alors on va rentrer maintenant dans la phase message d'espoir. Je vous rappelais, il y avait le cycle interne. Lui, on l'a vu deux fois, donc on s'en rappelle bien. Puis il y avait le grand cycle de l'azote, celui qui permettait de partir au nitrate et de revenir à l'azote atmosphérique. Alors effectivement, des bactéries sont capables, et il y en a beaucoup, dès lors qu'elles n'ont plus d'oxygène pour respirer, d'aller prendre l'oxygène qui est dans les nitrates. Pour ça, elles vont casser la molécule de nitrate, récupérer l'oxygène, et elles vont libérer du diazote qui va retourner vers l'atmosphère. Et c'est ça qui boucle le grand cycle de l'azote qu'on avait dessiné tout à l'heure. On a ici donc cette grande flèche qui repart du nitrate et qui retourne vers le diazote, qui boucle ce grand cycle de l'azote. Et donc on peut considérer que ce processus-là, qui est un processus bactérien, étudié par les microbiologistes. Alors vous avez vu jusqu'à présent, on a parlé d'économie, on a parlé d'agronomie, on a parlé de géochimie isotopique, on va parler de microbiologie. Eh bien cette dénitrification, on la connaît dans tous les milieux, par exemple dans les sols. Dès qu'un sol est inondé, il a plu énormément, le sol est un peu inondé, rempli d'eau, l'oxygène diffuse très mal, ne peut plus diffuser dans les pores du sol, puisqu'il y a de l'eau, et très rapidement, eh bien, ces milieux deviennent asphyxiés. Les bactéries, ces bactéries de la dénitrification, dès qu'elles n'ont plus d'oxygène, vont utiliser l'oxygène du nitrate. Dans des écosystèmes particuliers, par exemple, des écosystèmes qu'on a pu... Vous savez, les bordures boisées des grands fleuves, ici c'est la Garonne, mais on en a un petit peu partout, vous avez très souvent associé à des zones de grande culture, avant un grand fleuve, eh bien, ce qu'on appelle des ripisylves, c'est les écologistes qui utilisent ce terme, c'est les zones riveraines, les bordures boisées des grands fleuves. Eh bien, vous avez, à partir des zones de grande culture, des lessivages latéraux de nitrates qui font qu'avant de rejoindre les grands fleuves, ils vont passer dans ces bandes boisées. Ces bandes boisées, très souvent engorgées, dans lesquelles on a toutes les chances d'avoir de la dénitrification, et c'est vrai. Et lorsqu'on a étudié ces dénitrifications, on s'est rendu compte que les potentiels de dénitrification étaient énormes. Ces zones-là sont capables de faire disparaître 3 kg d'azote par hectare et par jour. 3 kg d'azote par hectare et par jour, c'est pas rien. Vous vous rappelez, on a parlé de pollution tout à l'heure et on a dit qu'un agriculteur qui travaillait bien perdait à peu près 30 kg d'azote par hectare et par an. Ça signifie qu'en 10 jours, dans un milieu pareil, vous êtes capable de régler à surface égale toute la pollution venue dans ces zones de grande culture. Donc c'est quelque chose qui est, je pense, particulièrement efficace. Les bactéries sont réellement des êtres vivants qui sont capables d'activités extrêmement signifiantes sur le milieu naturel. On en trouve dans les eaux souterraines jusqu'à 40 mètres de profondeur. Ça, c'est coupe géologique. On voit la nappe de la craie ici. Et on a des puits jusqu'à 40 mètres de profondeur. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5. Et vous avez des zones où l'aquifère de la craie, c'est-à-dire la craie poreuse qui est capable de faire circuler l'eau et les nitrates, qui est soit libre, soit recouverte de dépôts, c'est les dépôts qui sont en jaune ici, imperméables, qui empêchent l'eau de s'infiltrer, mais surtout à l'oxygène de l'air d'arriver. Et donc dans ces milieux-là, eh bien, l'eau qui était présente, qui descendait dans ces zones ici et qui va circuler dans ce sens d'écoulement-là, eh bien, va être très rapidement privée d'oxygène. Et on va avoir de la dénitrification. Regardez les résultats. Sur le puits numéro 1, on est à 2,5 fois la norme de potabilité. Sur le puits numéro 5, qui est à 1,5 km à peu près du précédent, on est presque à zéro. Donc vous voyez là, en termes d'aménagement du territoire, c'est tout à fait important de faire un puits d'adduction d'eau potable. Ici, vous n'aurez pas de nitrate. Ici, vous êtes à 3 fois les normes de potabilité. J'ai parlé d'aménagement du territoire. J'aurais dû en parler dans le cas d'espèces précédentes. Je veux dire, on tend de plus en plus à détruire ces zones boisées qui bordent les grands fleuves. Et ces zones-là sont pourtant extrêmement importantes pour la disparition de ces nitrates. Dans de grands bassins versants, alors on va prendre un bassin qui nous est tous familier, c'est la Seine, voilà, avec les zones cultivées en jaune, les forêts en vert, les agglomérations en rouge. Et lorsqu'on fait un bilan sur la Seine, eh bien, on constate qu'on a des quantités très importantes de nitrates qui viennent des sols cultivés, 215 000 tonnes par an qui sont perdues. Ça, c'est l'entrée donc, dans les zones cultivées. Ça, c'est le cours de la Seine. On a également de l'azote qui vient de quoi ? Des apports urbains. Parce que, bien évidemment, tous les rejets urbains contiennent des quantités relativement importantes d'azote. Et à cet égard, il faut qu'on se rappelle que ce n'est pas que les zones d'agriculture qui sont à l'origine de contamination azotée, mais tous les apports urbains, même traités dans les stations d'épuration, émettent des quantités d'azote significativement plus faibles. Elles sont de l'ordre de 56 000 tonnes par an l'année considérée, en 1994. Grosso modo, donc, va rentrer dans la Seine 270 000 tonnes d'azote. Et lorsqu'on est à l'aval complet, juste avant l'estuaire, eh bien, il n'y reste plus que 120 000 tonnes. Ça signifie que toute la différence, 150 000 tonnes, ont disparu. Et cette disparition, elle est liée à ces processus de dénitrification qui sont arrivés un peu partout, sur le fond des sédiments de la Seine, dans les zones riveraines, etc., etc. Donc c'est quelque chose qui est absolument essentiel et qui est apparemment extrêmement satisfaisant parce que c'est une véritable dépollution. Mais, et la nature est toujours compliquée, la dénitrification, c'est en fait une succession de réactions chimiques complexes, du réduction du nitrate. On passe du nitrate à un autre composé qu'on appelle le nitrite. Et puis ensuite, on va encore enlever un oxygène et on va avoir ici un composé qui est le monoxyde d'azote. Et puis on va encore enlever un oxygène, on aura un autre composé qu'on appelle l'oxyde nitreux pour arriver enfin à l'azote. Chacune de ces étapes est catalysée par l'activité de bactéries spécifiques à chacune de ces étapes. Et malheureusement, la dénitrification, de temps en temps, pour des raisons qu'on identifie encore assez mal, que les microbiologistes, sur lesquelles les microbiologistes se penchent, peut s'arrêter à ce gaz N2O, oxyde nitreux. On l'appelle aussi le protoxyde d'azote, c'est ce qu'on appelait avant le gaz hilarant. Et ce gaz, c'est un gaz qui est tout à fait indésirable dans l'atmosphère. C'est un gaz, comme le CO2, c'est un gaz à effet de serre. Et c'est un gaz à effet de serre comme le CO2 et qui augmente comme le CO2. Il augmente même, vous voyez, plus rapidement que le CO2. Si vous êtes attentif, vous allez me dire, mais attendez, les concentrations du CO2, vous les avez données autour de 300 ici, de 280 à 350 actuellement, en partie par million, c'est-à-dire un volume de CO2 pour un million de volume d'atmosphère. Pour l'oxyde nitreux, il y en a beaucoup moins, c'est en partie par milliard, mais malheureusement, s'il y en a mille fois moins, le N2O, ce toxyde nitreux, il est 300 fois plus actif sur l'effet de serre que ne l'est le gaz carbonique. Ça devient donc un problème d'environnement, ou ça risque de devenir très rapidement un problème d'environnement important. Gaz à effet de serre, mais c'est aussi un gaz qui est très très stable, très peu réactif. Il peut donc rester dans la basse atmosphère très longtemps, par exemple, il peut y rester, on estime que son temps moyen de résidence est 150 ans, et il peut monter jusque dans la stratosphère, et quand il y arrive, eh bien là, il va contribuer à la destruction de l'ozone, et c'est aussi un des responsables du trou dans la couche d'ozone. Alors, du coup, la dénitrification, c'était une dépollution, mais c'est peut-être quelque chose qui est aussi un transfert de pollution depuis des eaux polluées vers une atmosphère qui serait polluée. Alors, bien évidemment, ce qu'il faut essayer de voir, c'est quelle est la quantité de N2O et quels sont les processus qui font qu'on a cet arrêt de cette dénitrification à N2O. Quels sont les processus microbiens en particulier qui font qu'on ne va pas jusqu'au diazote qui, lui, est totalement non réactif et qui serait une véritable dépollution. Là, on a encore un certain nombre de problèmes et on peut se projeter dans le futur. On peut se projeter dans le futur en disant que, eh bien, il y a quand même des remèdes. La pollution, on voit quelque chose qui a une très grande inertie, mais maintenant on le sait. Et je pense que maintenant, il faut qu'on ait une nouvelle agronomie qui soit conçue comme une somme d'actes écologiques qui se nourrissent des données de la géochimie, de cette géochimie qui nous a appris cette inertie, qui nous a donné un âge moyen aux nitrates, qui nous a montré que les nitrates ne viennent pas directement des engrais, mais de la matière organique. On a des données et l'agronomie doit, dans le cadre d'une saine pluridisciplinarité, intégrer ces données-là. Les microbiologistes, ils doivent nous apprendre pourquoi cette émission de N2O, pourquoi on ne va pas jusqu'à N2, et pourquoi pas imaginer que l'on transforme, que l'on rajoute dans ces milieux-là les bactéries qui seraient capables de catalyser la réduction finale du N2O en diazote. C'est pas de la science-fiction, on l'a déjà fait dans le passé quand on a cultivé le soja en France. Le soja qui est une plante fixatrice, une plante qui peut, par des bactéries dans ses racines, fixer l'azote de l'air. Le soja n'est pas une plante naturelle cultivée en France. Il n'y avait pas les bactéries de la fixation qui pouvaient rentrer en symbiose avec le soja. Eh bien, on les a introduites dans les sols et elles y sont. Je voudrais terminer très rapidement par un tout petit peu de science-fiction pour vous parler de cycle de l'azote dans les savanes. Alors on va quitter la bosse, la brie, ou les on va rentrer en savane africaine. Savane africaine, ce sont des sols très très peu fertiles, c'est-à-dire qui donnent très peu de nitrates. Si on les étudie, on n'a jamais de nitrates dans ces sols-là. Par contre, ils ont une productivité qui est la productivité d'un hectare de savane, c'est-à-dire la quantité de végétation qu'elle peut produire, c'est celle d'un champ de blé en bosse. Alors ça, c'est quand même un mystère. Et ce mystère, on a essayé de le comprendre et on s'est rendu compte que c'était lié à un cycle de l'azote qui ne fuyait pas du tout. Alors, dans cette savane, on a travaillé sur la savane de la Côte d'Ivoire, il y a donc des graminées, c'est-à-dire pas du blé, mais enfin des plantes qui sont voisines du blé, et puis dans le sol, des matières organiques. Les matières organiques donnent très très peu d'azote minéral, je vous ai dit qu'elles étaient très très peu fertiles. J'ai mis des pointillés, alors il y en a un tout petit peu, mais c'est vraiment incapable de soutenir la synthèse nécessaire à la fabrication des graminées de l'année d'après. Tout à fait incapable. Dans ces graminées, il y a des racines vivantes, il y a de l'azote dans les parties aériennes, et puis à un moment de l'année, l'azote de ces parties aériennes, il est capable de disparaître des parties aériennes, il re-rentre dans les racines. Bizarrement, c'est juste avant que le feu ne vienne détruire, comme chaque année, les parties aériennes de la végétation qui ont séché. L'azote, il est revenu dans les racines vivantes et il va passer dans les racines mortes. C'est de la matière organique morte qui va commencer à se minéraliser et donner de l'ammonium. On retombe sur le cycle de l'azote que je vous ai dessiné tout à l'heure. Et là, on constate quelque chose, c'est que dans ces milieux-là, il n'y a jamais de fabrication de nitrate. Jamais de fabrication de nitrate. Par contre, les plantes sont adaptées à utiliser non pas le nitrate, mais sont adaptées à utiliser l'ammonium. Et donc, elles peuvent récupérer pour les années d'après cet azote qui est dans l'ammonium et qui va servir à refabriquer la nouvelle génération, l'année N+1, de graminées. Et c'est tout à fait remarquable parce que c'est un système qui est complètement verrouillé. Pourquoi ? Parce que s'il n'y a pas de nitrate, on ne peut pas lessiver l'ammonium. C'est un cation, pour des raisons, vous voyez, c'est un ion chargé positivement. Il ne peut pas quitter le sol, il ne peut pas être lessivé, il ne peut pas être dénitrifié, puisque ce n'est pas du nitrate. Et donc, il reste dans le sol, et donc il est disponible pour être réutilisé par la végétation de l'année d'après. Et on a compris, en travaillant sur ce système-là, qui n'est pas tout à fait bouclé, on en perd quand même un petit peu, alors il y a un petit peu de fixation atmosphérique qui remet juste un tout petit peu d'azote annuellement, mais on a compris quelque chose, c'est que les racines de ces végétaux-là étaient capables de sécréter une molécule qu'elles injectaient dans le sol et qui, elle, inhibait totalement cette nitrification. Alors, on peut faire de la science-fiction, on peut se dire qu'on pourrait imaginer un blé qu'on aurait rendu génétiquement capable d'utiliser l'ammonium et génétiquement capable de sécréter cette molécule qui bloque la nitrification. Et vous voyez que dès lors, on pourrait très très bien faire une agriculture en ne mettant que de l'ammonium dans des sols. On ne perdrait jamais cet ammonium. Et toute la quantité d'ammonium qu'on apporterait serait réutilisée pour refabriquer la partie de l'azote de la plante que l'on exporterait, c'est-à-dire les grains de blé. Alors ça, c'est de la science-fiction, c'est pour demain, mais c'est pour vous montrer qu'il y a de quoi faire. Alors les sciences de l'environnement, j'espère que vous avez montré, c'est quoi ? C'est vraiment des zones d'interface entre des disciplines, l'hydrogéologie, la géochimie, la géochimie isotopique, la chimie, l'hydrologie, l'écologie, l'agronomie pour les sciences naturelles, mais c'est aussi le lieu d'affrontement avec d'affrontement amical avec l'économie, la sociologie, la géographie. C'est vraiment le lieu parfait de l'exercice de la multidisciplinarité. Et à cet égard, les sciences de l'environnement sont vraiment des sciences des interfaces. Se caractérise par la multidisciplinarité, il faut intervenir toutes les sciences expérimentales, beaucoup des sciences humaines et sociales, géographie, aménagement du territoire, sociologie, économie, etc. C'est l'étude de systèmes complexes, très complexe, vous l'avez vu, qui nécessite, par rapport à d'autres sciences expérimentales, quelque chose de tout à fait singulier, c'est-à-dire la création, qui n'existent pas encore, mais qui sont en train d'être mis en place, d'observatoires. Il faut impérativement inscrire ces recherches dans la durée, c'est-à-dire qu'il faut avoir des dispositifs de terrain, il faut aussi avoir du personnel spécifique pour suivre ces observations sur le long terme. Et cette multidisciplinarité, c'est la science des frontières. Et je veux dire, vous avez compris aussi la grande difficulté, les écueils sur lesquels on se fracasse assez souvent, les scientifiques. À cet égard, on peut dire que c'est très largement une frontière pour la science. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne soirée.
Sur l'hypothèse de la nocivité éventuelle de la nitrosoamine, je crois que c'est une hypothèse déjà qui date de plusieurs décennies. Je suis surpris que le doute n'ait pas été levé sur la nocivité ou non de cette molécule.
Oui, je pense que ce n'est pas un problème de nocivité de la molécule. La nocivité, je pense qu'on la connaît, c'est le problème. Est-ce qu'il peut y avoir des transformations à l'intérieur du corps humain du nitrate en nitrosamine ? Ça, c'est totalement controversé. Hein. Ça, c'est un autre aspect. La nocivité de la nitrosamine ne fait guère question.
Oui, donc dans l'organisme humain, on n'a pas levé ce doute de la possibilité de la cancérisation vis-à-vis des nitrosoamines qui s'y forment.
Je vous ai parlé de beaucoup de pluridisciplinarité, mais je pense que vous avez tous compris que je ne suis pas moi-même médecin. Et je pense que il s'agit là de problèmes d'une très très grande complexité. On a cru voir à un moment donné des liens entre des teneurs anormalement élevées de nitrate dans l'eau de consommation et l'apparition de certains cancers, mais l'épidémiologie est une science complexe, multifactorielle, et je pense qu'on n'est pas prêt de répondre à cette question. Quant à la fabrication des nitrosamines, à ma connaissance, mais je ne suis pas un expert dans le domaine, effectivement c'est pas encore, le doute n'est pas encore levé.
Oui, alors je ne sais pas si c'est un point que vous avez abordé en début de conférence, parce que malheureusement, je n'ai pas pu arriver à l'heure. J'aurais voulu savoir, dans les processus de dénitrification, si ce qui est utilisé actuellement dans les usines de traitement des eaux usées, pour le retraitement, le recyclage, donc l'eau potable, le processus est suffisant pour éliminer le maximum de ces nitrates. Et d'autre part, en parallèle, je voulais savoir, puisque les gens ont de plus en plus de méfiance vis-à-vis du traitement de ces eaux usées. Est-ce que les fameuses eaux de source, qui sont des eaux de compensation, ont un système de filtration aussi strict et aussi sûr qu'on le prétend, malgré l'affichage, hein, sur les étiquettes ?
Oui, je réponds à la dernière partie. Là, je vous garantis que les eaux qui sont vendues en bouteille, les analyses chimiques, notamment sur les nitrates, elles sont faites suffisamment régulièrement pour que vous soyez parfaitement confiant dans les valeurs qui sont inscrites. Ça, c'est le premier point. La dénitrification, oui, on sait la faire. On sait la faire, la dénitrification, sans aucun problème. On a des pilotes de dénitrification qui sont capables de... Alors, vous avez parlé d'eau usée ou de repotabilisation d'eau, c'est un petit peu différent. Hein. Les eaux usées, on va parler, par exemple, les égouts de Paris sont traités dans les stations d'épuration, dont le but est de prendre des matières organiques et d'en fabriquer des nitrates. D'accord ? Et on rejette, et malheureusement, ça ne fonctionne même pas toujours, on rejette souvent dans la Seine, vous l'avez vu, de l'ammonium, et puis au cours de la Seine, ça se transforme en nitrate. Ce qu'on essaie de faire, mais j'avoue que là, c'est d'essayer d'avoir un système où on arriverait à traiter les eaux usées, faire disparaître les matières organiques, les amener jusqu'aux nitrates, et dans une étape ultérieure, de réduire ces nitrates complètement par dénitrification. Là, l'opération est compliquée, parce que dans le premier cas, vous voyez que l'ensemble des réactions sont des réactions de type aérobie. Il faut apporter énormément d'oxygène pour transformer l'azote réduit des matières organiques en nitrate. Et à un moment donné, il faut qu'on ait plus du tout d'oxygène, de façon à ce que les bactéries de la dénitrification puissent utiliser l'oxygène du nitrate. Donc là on ne sait pas encore réaliser tout ceci. En tout état de cause, pour des eaux qui n'ont pas ce problème-là, c'est-à-dire pour des eaux qui n'ont pas de matière organique, je pense par exemple à des eaux de nappe très polluées, ces eaux-là, on sait les traiter par dénitrification sans aucun problème et les débarrasser totalement de leur nitrate. Le problème, c'est que ça a un coût et qu'une station de dénitrification introduit à peu près des coûts qui arrivent à un doublement du prix de l'eau. Et il faut savoir si, eh bien, sociologiquement, ceci est acceptable ou pas. Mais je veux dire, on a tous les outils, toutes les clés, c'est pas très compliqué pour arriver à débarrasser totalement les eaux de leur teneur en nitrate. Dès lors qu'elles ne contiennent, ce ne sont pas des eaux usées. Hein. Le problème des eaux usées, c'est vraiment un problème beaucoup plus compliqué.
Si j'ai bien compris votre exposé, l'avantage des fumures à objectif de rendement équivalent, l'objectif des fumures, l'utilisation de fumures naturelles a un avantage secondaire par rapport aux engrais donc oui. Artificiels, si on veut.
Oui, les fumures naturelles, vous pensez au fumier, etc., ce qu'on faisait avant. Oui, avec ça, oui, certes, mais jamais on peut arriver aux rendements qui sont les rendements nécessaires aujourd'hui à la production végétale qui donne à manger à tout le monde sur des surfaces et avec une population agricole qui est en train de diminuer. Ça, c'est hors de question avec des fumures dites naturelles d'arriver aux rendements auxquels on arrive aujourd'hui. J'ai mis 85 quintaux, mais on sait malheureusement, on a largement dépassé ça en termes de rendement. On frôle souvent les 100 quintaux aujourd'hui de nos jours. Avec les fumures naturelles, malheureusement, on ne sait pas faire. Et les fumures naturelles posent d'autres problèmes. Je veux dire, si on veut fertiliser avec de grandes quantités de matières organiques, on peut faire aussi ce qu'on fait en Bretagne avec le lisier. Je n'en ai pas parlé là, parce que là, ça échappe un peu à la normalité, au sens de norme, parce que là, vraiment, on ajoute énormément d'azote organique venu des lisiers, et vous connaissez les effets. Je veux dire, c'est quand même là que les teneurs en pollution sont les plus élevées. Mais là, il y a des problèmes d'excédent qui échappent à toute rationalité, là. Qui n'est pas la rationalité de l'agriculteur de Beauce, qui a son logiciel de fertilisation, qui connaît son sol, qui sait ce que son sol est capable de donner en fonction du milieu physique qu'il a, de l'état d'humidité du sol, de la pluviométrie, etc. etc. Je veux dire, il faut vraiment voir qu'un agriculteur en Beauce ou en Brie, dans ces zones de grande production, sont des gens qui ont actuellement un niveau de sophistication matérielle et intellectuelle qui est extrêmement, extrêmement élevé.
En fait, ma remarque, c'est un peu politique, mais... Est-ce que c'est pas irrationnel de penser à dénitrifier et si on ajoute les coûts de l'apport en nitrate, en engrais, et puis après les coûts de la dénitrification et le coût de traitement de toutes les pollutions, on arrive à une agriculture qui, bien que les rendements apportés par ces engrais sont importants, coûte beaucoup plus cher. Et si on ajoute tous les coûts à côté de ce que ça apporte, en fait, c'est d'un point de vue économique, c'est irrationnel. Est-ce que ce serait pas plus rationnel de se diriger, enfin là c'est une remarque politique, je ne sais pas si vous pouvez parler de ça, mais de se diriger vers une agriculture biologique. Il y a beaucoup d'auteurs qui favorisent cette voie-là, comme Pierre Rabhi, un expert auprès de l'ONU, et donc de favoriser comme ça une agriculture où on essaie de respecter le cycle naturel de la terre sans apporter trop d'éléments extérieurs chimiques. Voilà.
Oui, ça marcherait très bien si la population française diminuait de moitié ou des trois quarts, si elle acceptait de pas tous les jours manger à sa faim. Je pense que c'est quelque chose auquel qu'on pourrait tout à fait envisager. Mais je ne crois pas que les gens soient prêts à ces efforts-là. Il faut dire qu'on a actuellement, si on veut nourrir la population française, il faut qu'on ait les rendements de blé. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas une place pour l'agriculture biologique. Je veux dire, je pense que dès lors que les gens ont envie de payer des produits de très grande qualité à des coûts très élevés, je crois qu'il y a une place et il y a un certain nombre de cultures qui sont à développer selon cette voie-là. Mais je pense que si on veut faire du blé pour faire du pain par les méthodes d'agriculture biologique, je suis désolé, mais il n'y aura plus assez de pain pour tout le monde. Hein. Ça, c'est clair. Les rendements de l'agriculture biologique ne peuvent en aucun cas prétendre aux rendements, je dirais, économiquement et sociologiquement nécessaires actuel. Il n'est pas possible de généraliser l'agriculture biologique actuellement sur un pays comme la France avec la surface cultivée que l'on a et avec le nombre d'agriculteurs que l'on a qui est, comme vous le savez, en constante diminution.
Vous nous avez parlé des dangers, entre guillemets. Mais effectivement, je pense que c'est des dangers, entre guillemets, dans la mesure où les risques sont très faibles.
Tout à fait, oui.
Aujourd'hui, on remet en cause, notamment le professeur Amfelbaum remet en cause les risques de danger concernant la santé humaine. Et il considère que la norme de potabilité est complètement artificielle. Et quand on voit que l'opinion publique s'enflamme pour des normes aussi établies à la légère, on peut se poser des questions. Alors, vous nous avez parlé qu'il y avait le risque d'eutrophisation. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne va pas remettre également en cause ce risque et qu'on va penser plutôt que l'eutrophisation est due au phosphate?
Oui, l'eutrophisation, elle est due au nitrate et au phosphate. Effectivement, le nitrate seul, ça ne suffit pas à faire de l'eutrophisation. Si on veut faire pousser des algues, il faut du carbone, mais ça, elle le trouve dans l'atmosphère. Il faut de l'azote, il faut aussi du phosphore, parce qu'il en faut. Et effectivement, c'est le couple azote et phosphore. Mais si vous enlevez le nitrate, il n'y aura plus d'eutrophisation. Et il y aura, les deux éléments, nitrate et phosphate, sont nécessaires à l'eutrophisation, mais le nitrate reste nécessaire. Sur la toxicité des nitrates, je suis d'accord avec vous. Je pense que jamais personne n'est... Enfin, je pense qu'il y a vraiment peu de danger. Le problème que j'ai surtout vous montrer, c'est que dans le système agricole que l'on a, on a à côté des nitrates, il y a autre chose. Il y a les pesticides, il y a les métaux lourds qui sont introduits dans le système. Et ce sur quoi je voulais vous amener à réfléchir, et je vous remercie d'avoir posé cette question parce que je l'ai un peu oublié dans mon exposé, c'est de montrer que ces systèmes-là, ce sont des systèmes qui fonctionnent avec une énorme inertie. Et je pense que le danger, il vient beaucoup plus de ce qui accompagne les engrais, les pesticides, les métaux lourds, etc., et qui, eux aussi, rentrent dans ces cycles internes de la matière organique dans les sols. 50% des pesticides que l'on applique sur un sol au jour d'aujourd'hui passent dans la matière organique, et là, on ne sait plus. Ils sont dans la matière organique, ça, on sait le démontrer avec du traçage isotopique. On ne sait pas sous quelle forme ils sont, et on ne connaît en aucun cas leur devenir. Ce que j'ai voulu montrer en trouvant cet exemple, en partant de cet exemple qui parle aux gens et qui dit et qui est quand même suffisamment rentré dans les mœurs pour que les gens s'intéressent à ça, c'est en fait un indicateur, je pense, les nitrates, de ces problèmes de pollution et de l'inscription de ces problèmes de pollution dans des constantes de temps qui dépassent très largement les quelques années ou l'approche type agronomique où on a une réponse à l'échelle de quelques mois. Hein. On plante et puis 6 mois après, on a une agriculture. Ceci étant, je dirais quand même pour les nitrates, il faut faire attention. Marianne Apfelbaum est un vieil ami. Il pense que les nitrates, c'est pas dangereux. Je pense que s'il veut se nourrir de nitrates, personne ne l'empêchera. Mais je pense qu'il y a quand même le principe de précaution qu'on doit appliquer. C'est pas une molécule naturellement présente dans les eaux. Lorsque vous allez dans les eaux de forêt, dans les eaux de nappe sous les forêts ou dans des zones dites naturelles, il n'y a pas de nitrate dans les eaux. Je pense qu'il faut quand même se méfier un tout petit peu. La norme, elle a été édictée au doigt mouillé. Mais le problème, il est qu'il y a des nitrates dans les eaux, mais ce n'est pas là qu'il y en a le plus. Chaque fois que vous consommez des légumes, des laitues, des radis, des carottes, c'est très riche en nitrates également. Et donc la quantité totale de nitrates, elle est difficile à apprécier parce que dans ces légumes, les quantités sont extrêmement variables. Et donc, je veux dire, quand le législateur dit on va mettre 50 mg par litre, il prend peut-être beaucoup de précautions. Mais moi, ça me gêne relativement peu qu'on prenne relativement beaucoup de précautions dans des systèmes dont on ne connaît pas au long terme les effets.
Oui, je voulais savoir si pour la bosse ou la brie, par exemple, une meilleure irrigation serait possible pour augmenter les rendements, par exemple.
Oui, c'est ce qu'ils font d'ailleurs, hein, ils irriguent. Et je veux dire, en irriguant, vous avez compris qu'ils ont une petite tendance aussi à augmenter le lessivage par les nitrates, et c'est probablement une pratique qui, si elle augmente les rendements, risque de s'accompagner d'une pollution exacerbée. Je veux dire, mais c'est toujours pareil. On est dans un ensemble de pratiques agricoles qui sont toutes tournées vers des problèmes d'augmentation des rendements. Et je pense qu'à un moment donné, il faudrait. Je crois pas qu'on puisse dire aujourd'hui, on va gérer l'irrigation de façon à ce qu'on pollue moins. On saurait gérer la fertilisation pour que ça pollue moins. Et la fertilisation couplée à une irrigation. On sait que si au lieu d'appliquer les engrais en une fois ou en deux fois, on les appliquait en 7 ou 8 fois, on parcellisait la pleure, on minimiserait les pertes. problème, c'est qu'il faut sortir 7 ou 8 fois le tracteur et que ça coûte très cher. Il faut avoir la main-d'œuvre pour le faire et ils l'ont de moins en moins parce que les coûts sont de plus en plus élevés et on arrive au contraire à une simplification de plus en plus poussée. Et là aussi, il y a un débat qui est un débat qui m'échappe totalement. Moi, je suis un géochimiste, je ne suis pas un sociologue et un économiste, mais vous voyez que chaque fois, on retombe sur des problèmes de type économique. Pollution, pas pollution. Coût de la pollution, coût de la dépollution. Il faut comparer et regarder. Et c'est ça qu'on a voulu vous montrer ici, c'est-à-dire c'est là que, à tout moment, eh bien, ces sciences dites naturelles, elles sont en interface très forte avec les sciences humaines et sociales, et les réponses, eh bien, les réponses, on ne les a pas, parce que les rencontres, elles sont récentes, et les solutions, probablement, dans un avenir pas immédiat.
Oui, je voulais vous poser une question. Nous avons vu les dangers du nitrate, et vous venez de parler des engrais en particulier. Cette question du danger n'est pas d'aujourd'hui, ça date de nombreuses années. J'aimerais connaître aujourd'hui quelle est la position de nos gouvernements, notre gouvernement en France et du Conseil de l'Europe, pour lutter justement contre ce fléau qui risque de porter préjudice à l'homme. Faut-il attendre la prochaine manif de José Bové pour arrêter ça? Faut-il attendre à une catastrophe comme type de la vache folle, pour qu'on prenne conscience que ça représente un danger?
Je suggérerais à M. Michaud d'inviter M. Raffarin la prochaine fois, parce que moi, je suis malheureusement un peu mal placé pour vous répondre, vous le comprendrez, quoi. Mais je pense que ça serait un excellent sujet de conférence, et ces questions seraient sûrement d'une très, très grande actualité.
Merci, M. Mariotti.